Bonjour, bon week-end. La France s'est couverte de honte samedi dernier au Stade de France. Alors que s'est-il vraiment passé? On va poser la question à Ronan Evin. Il était sur place en tant qu'observateur pour l'UEFA. Europe 1. Bonjour Ronan Evin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du réseau Football Supporter Europe. Vous étiez présent au Stade de France lors de la finale de la Ligue en tant qu'observateur pour l'UEFA. Est-ce que vous aviez déjà assisté à un pareil chaos?
Non. À ce niveau-là, non. On a connu d'autres finales compliquées pour d'autres raisons, notamment la finale de l'Euro à Wembley.
L'été dernier.
L'année dernière, mais cette fois-ci, on s'est vraiment fait très très peur. Enfin, pas moi personnellement, parce que j'étais en sécurité. Mais il s'est passé une bonne heure pendant laquelle on avait peur pour la vie d'une partie des supporters qui s'étaient rentrés au Stade de France.
Alors pour le ministre de l'Intérieur, les responsables, ce sont les 30 000 ou 40 000 supporters anglais sans billets ou munis de faux billets qui ont gonflé dangereusement la foule aux abords du stade. Qu'en pensez-vous ?
Les supporters fantômes, l'avantage d'accuser ces 30 000 ou 40 000 supporters fantômes, c'est qu'ils n'existent pas, donc ils ne peuvent pas se défendre. Non, c'est une communication assez étonnante de la part du gouvernement qui s'est enfermé dans quelque chose de vraiment bizarre, enfin du moins de communication de Gérald Darmanin, parce que j'ai l'impression qu'il est bien isolé dans cette histoire. Ces 30 ou 40 000 supporters sans billets autour du Stade de France ou avec des faux billets, ils n'existent tout simplement pas. Non.
Il y avait quand même une fan zone. Au cours de Vincennes de 44 000 places et elle était pleine, cette fan zone. C'est ce que a l'air de dire le ministre.
Elle était pleine, ouais. Elle était pleine, justement. Justement, elle était pleine avant le coup d'envoi et c'est des gens qui sont restés en ville et qui n'ont absolument pas été aux abords du Stade de France. Donc il y avait effectivement un certain nombre de supporters de Liverpool sans billets à Paris, probablement autour de 45 000, mais ce qui n'est pas un problème en soi. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir la ministre des Sports reprocher aux supporters de Liverpool d'être venus visiter Paris après 2 ans de Covid et alors que la France décide d'accueillir une finale de Ligue des Champions. L'idée, c'est quand même de faire vivre l'économie parisienne, de remplir les hôtels, les restaurants et les bars. Et je crois que c'est ce que les supporters de Liverpool ont fait samedi dernier. Donc, leur reprocher de se déplacer à Paris, alors qu'en plus, ils ont simplement fait usage de leur liberté de circulation, c'est une approche assez étrange de la finale de Ligue des Champions.
Alors, si ce ne sont pas les supporters anglais, on incrimine également des stadiers désorganisés, notamment au niveau des tourniquets. Ils se sont retrouvés à devoir vérifier les billets, à fouiller les supporters. Ils n'ont rien fait, dit-on, quand certains supporters ont escaladé les grilles. Ce sont donc des sociétés de sécurité privées qui sont chargées de la sécurité dans l'enceinte du stade.
Oui, effectivement, même s'ils sont généralement, et c'était le cas samedi, doublés de policiers ou de gendarmes mobiles. Le mal racine, comme dit Gérald Darmanin, ce qui est d'ailleurs assez étrange comme expression, c'est absolument pas des faux billets, c'est un problème de circulation autour du Stade de France, une erreur dans l'acheminement des flux qui amène à l'abandon d'un point de préfiltrage, qui amène à de très nombreuses personnes sans billets autour du Stade de France, à proximité des grilles du Stade de France. Alors parmi elles, il y avait peut-être des supporters de Liverpool, de Real Madrid, même certainement, mais c'était surtout des locaux qui, devant le chaos généralisé, ont pu en profiter pour tenter de se rapprocher du Stade de France. Les stadiers, eux, ont fait un peu ce qu'ils pouvaient. Les stadiers, c'est vraiment les prolos du football, enfin l'industrie du foot. C'est des gens qui sont pas forcément très bien rémunérés, très bien formés et qui vont certainement pas risquer leur santé pour empêcher des gens de rentrer dans le stade. Donc moi, encore une fois, ils ont fait ce qu'ils pouvaient devant le chaos généralisé.
Vous parlez donc d'organisation. Il y aurait eu un problème d'organisation, mais qui en était le responsable de cette organisation, qui a vu que effectivement, pour arriver au Stade de France, en sortant du RER, les supporters se retrouvaient coincés dans un passage souterrain avec deux fourgons de police qui bloquaient leur passage, un trottoir étroit ensuite, qui se retrouvaient ensuite avec des tourniquets en tout petit nombre, d'où l'écrasement, dit-on, contre les grilles.
Alors, ça, c'est un problème de circulation sur la voie publique, donc c'est une responsabilité de préfecture de police de Paris. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un risque ou un problème qui était clairement identifié, c'était la grève sur le RER B, avec une réduction du trafic. Les supporters de Liverpool ont été envoyés vers le RER D, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé de faire. Et arrivés au Stade de France, ils n'ont pas été orientés, pour une raison qui est jusqu'ici inconnue et que sur laquelle le ministère de l'Intérieur n'a pas communiqué, ils ont été orientés vers un mauvais itinéraire. Et effectivement, comme vous l'avez expliqué, jusqu'à 15 000 personnes ont été orientées vers un trou de souris. Et c'est là qu'on s'est justement fait très très peur parce que ce goulot d'étranglement était évidemment bouché. On essayait de faire passer jusqu'à 15 000 spectateurs par une rampe de 4 mètres et demi de large, ce qui est évidemment impossible. Et c'est là qu'on s'est fait peur parce que tous ces gens étaient sous le soleil, sans accès aux toilettes, sans accès à l'eau courante pour certains d'entre eux jusqu'à 1h30, avec des familles, avec des personnes âgées, avec des personnes handicapées, des personnes vulnérables. Et c'est là que la réaction des supporters de Liverpool a été assez admirable parce que il y a une espèce d'intelligence collective qui a fait que ils ont su garder leur calme. C'est très spécifique à Liverpool. C'est dû notamment aux grandes catastrophes dans les stades anglais des années 80 qui ont vraiment touché les supporters de Liverpool et qui a créé cette sorte de mémoire collective, de ce savoir d'un danger d'une foule. Et si ça avait été des supporters d'autres clubs, d'un autre sport, le résultat aurait pu être très différent. Donc on est vraiment passé à la catastrophe.
Toujours en direct avec Ronan Evin. Il est le directeur général du réseau Football Supporter Europe. Il était présent au Stade de France samedi dernier en tant qu'observateur pour l'UEFA. La violence des policiers, Ronan Evin, aveugle, sans discernement, on dit les journalistes anglais présents sur les lieux. Gérald Darmanin reconnaît des gestes inappropriés et disproportionnés. Qu'avez-vous vu exactement ?
Alors, ça, effectivement, les soucis de violence sont déroulés dans un second temps, une fois que les préfiltrages ont sauté et que beaucoup, beaucoup de monde sans billets s'est retrouvé aux abords du Stade de France. Cette violence a avant tout consisté à des gazages, des utilisations de gaz lacrymogènes de manière indiscriminée sur des foules des groupes qui attendaient de rentrer au Stade de France. Les entrées étaient, là, à ce moment-là, c'était extrêmement chaotique. Le flux était réduit. Certaines personnes ont attendu jusqu'à 2 heures pour pouvoir rentrer dans le Stade de France à ces endroits-là. Et c'est vrai qu'on a vu des policiers, des gendarmes mobiles qui gazaient des gens qui attendaient de rentrer. Et là, la difficulté de ça, c'est que ces gens-là sont restés à l'endroit où ils étaient dans la queue parce qu'ils attendaient depuis longtemps, parce qu'ils voulaient rentrer dans le stade. Et donc, ils sont restés prisonniers de ce nuage de lacrymo. Ça a eu un effet assez important sur ses supporters, et encore une fois, c'était un public qui était tout à fait divers. Enfin, avec mon collègue, on a parlé à une dame de 91 ans qui avait fait la queue plus de 2 heures pour rentrer dans le stade et qui s'est fait gazer 2 fois pendant ce temps-là, et donc qui avait du mal à reprendre son souffle, évidemment. Et puis cette violence, elle s'est aussi déplacée vers des supporters un peu énervés, de manière compréhensible, de ne pas pouvoir rentrer dans le stade alors qu'ils avaient un billet. Et à ce moment-là, la réponse a parfois été un peu violente. Mais le problème ici, c'est comme souvent en France, c'est que le seul interlocuteur qui se présentait face à ces supporters, qui parfois essayaient de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, parfois qui avaient besoin d'assistance médicale du fait de l'utilisation excessive de ces fumigènes, de ces gaz lacrymogènes, le seul interlocuteur qu'ils avaient, c'était la police anti-émeute ou les gendarmes mobiles. Il n'y avait personne d'autre pour faire le tampon, faire la liaison avec ces supporters.
Mais pourquoi ne pouvaient-ils pas rentrer à ce moment-là ?
Parce que il y a eu un choix que moi j'ai du mal à comprendre, du fait de la présence nombreuse de personnes sans billets autour du stade, dont certains essayaient de sauter au-dessus des grilles du Stade de France, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'ils font plus de 3 mètres de haut, donc il faut être assez sportif pour réussir à le faire, mais d'autres essayaient de sauter par-dessus les tourniquets, et pour faire face à ce risque, notamment du fait du manque de personnel, je pense, le flux a été réduit à toutes les portes du Stade de France, Les 8 tourniquets, il n'y en avait plus qu'un. Donc, encore une fois, on essayait de faire passer les supporters par un trou de souris. Et c'est pour ça que des entrées qui auraient dû être réglées en 20 minutes, 30 minutes, ont mis 2 heures à se résorber.
Et ces gens qui n'avaient pas de billets et qui essayaient de rentrer quand même, qui étaient-ils ? On parle de bandes de délinquants qui se seraient rendus en masse aux abords du stade, des pickpockets, des voleurs, des resquilleurs, voire pire, s'attaquant aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées. Eux porteraient une grande responsabilité dans les événements.
Oui, alors il faut dissocier deux choses. Ou trois. Il y a une délinquance d'opportunité autour du Stade de France qui existe toujours. Des pickpockets, des voitures garées dans les rues autour du Stade de France qui se font attaquer pendant le match, etc. Et ça, c'est un risque connu. Il s'est ajouté à ça le fait qu'à partir du moment où un préfiltrage a sauté et qu'il était possible d'entrer sur le parvis du Stade de France sans billet, il y a eu un appel d'air. Je pourrais pas les qualifier de délinquants ou de voyous parce qu'à ce moment-là, il y a absolument rien d'illégal à rentrer autour du Stade de France. Mais cet appel d'air, c'est des jeunes gens des environs du Stade de France qui se filment sur Snapchat ou autre. À rentrer dans les environs du Stade de France. Et puis à ce moment-là, il commence à y avoir des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux qui montrent un certain chaos. On voit notamment une vidéo qui a beaucoup circulé de Cyril Hanouna qui rentre en passant sous un tourniquet, vraisemblablement parce que le tourniquet était défectueux. Et donc ça crée la perception que c'est vraiment le bordel autour du Stade de France et qu'il y a peut-être moyen de rentrer. Et c'est là que ça crée cet appel d'air qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde autour du Stade de France. À ce moment-là, on ne voit pas nécessairement de violence, mais plutôt des gens qui essaient de rentrer en force, soit encore une fois en passant par-dessus les grilles. Et là, passer par-dessus les grilles du Stade de France, c'est pas quelque chose, c'était pas vraiment une possibilité pour les supporters de Liverpool, surtout ceux qui avaient passé leur journée à picoler dans le centre de Paris, parce qu'encore une fois, c'était très très sportif, ou en sautant par-dessus les tourniquets. Donc là, ces gens-là jouent un rôle dans le chaos généralisé, mais ça se limite à ça. À partir de 22h, donc une heure après l'heure théorique du coup d'envoi, les gendarmes mobiles commencent à évacuer l'esplanade du Stade de France, mais tous ces gens-là sont juste repoussés à proximité du Stade de France. Et ce qui s'est passé visiblement, alors moi je ne l'ai pas vu parce que je suis parti du stade un peu plus tard, mais pour les premières personnes qui ont quitté le Stade de France, il y a eu à ce moment-là énormément de violence. Des gens qui ont été attaqués sur le chemin du métro ou du RER avec des vols, avec des violences en réunion, tout ce genre de choses. Et c'est un problème récurrent, pas seulement au Stade de France, pas seulement en France, mais aussi ailleurs, c'est que le dispositif policier se concentre très généralement sur l'avant-match. Et très très peu sur l'après-match. Et c'est paradoxal parce que l'avant-match, les gens savent où ils vont au stade, il fait jour et généralement il y a assez peu de risques. Après le match, il fait nuit, tout le monde part en direction des directions différentes, il peut y avoir un peu de frustration causée par le match, etc. Et là, ce qu'on a vu samedi, c'est un dispositif policier beaucoup moins important après le match qu'avant le match qui a justement permis ces attaques sur des supporters qui quittaient le Stade de France.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Ronan Evin. Je rappelle que vous êtes le directeur général du réseau Football Supporters Europe. Vous étiez donc au Stade de France en tant qu'observateur pour l'UEFA.